Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Il est urgent de construire une société plus juste et solidaire, capable de reconnaître la valeur de la mobilité humaine. Le pape François a lancé une alerte sur l'urgence humanitaire représentée par les enfants migrants vers les États-Unis. Le Saint-Père a appelé à les protéger et à les accueillir. Les évêques de France annulent un pèlerinage étudiant en Israël et en Cisjordanie en raison de l'aggravation du conflit entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien. Un pèlerinage qui avait suscité un vif enthousiasme tant chez les étudiants que chez les nombreux interlocuteurs et communautés chrétiennes de Terre Sainte. L'ordination de femmes évêques au sein de l'Église d'Angleterre constitue un nouvel obstacle sur le chemin de l'unité des chrétiens, mais le dialogue écuménique se poursuivra. L'Église catholique prend acte de cette décision, mais elle continuera d'œuvrer en faveur du rapprochement entre les deux églises. Le pape François lance un nouveau plaidoyer pour les migrants et en particulier pour les mineurs. Lors d'un séminaire organisé à Mexico sur les flux migratoires en Amérique latine vers les États-Unis, un message du Saint-Père a été lu par le nonce apostolique sur place. Le flux de migrants et notamment de mineurs en provenance d'Amérique centrale et du Mexique s'est intensifié vers les États-Unis. Depuis octobre dernier, environ 52 000 enfants non accompagnés ont traversé la frontière américaine et se retrouvent dans des centres de rétention surchargés dans des conditions humanitaires déplorables. Dans son message, le pape François appelle à changer de regard sur les migrants. Olivier Bonnel.
Beaucoup de personnes contraintes à l'émigration souffrent, constate le pape dans son message. Elles sont obligées de se séparer de leur famille et hélas continuent à être l'objet de comportements racistes et xénophobes. Pour le souverain pontife, il est donc nécessaire de changer notre regard envers les migrants et les réfugiés, transformer un comportement de défense et de peur en une culture de la rencontre, la seule capable de construire un monde meilleur. Et dans ce message, les enfants sont au centre. Depuis le mois d'octobre dernier, ils sont près de 60 000 à avoir été interceptés à la frontière des États-Unis et du Mexique, venant pour beaucoup d'Amérique centrale, Honduras, Salvador ou Guatemala. Ils traversent la frontière dans des conditions extrêmes, écrit le pape, et il y a urgence d'accueillir et de protéger ces mineurs comme il se doit. François, qui réclame ainsi toute l'attention de la communauté internationale pour faire face à ce défi, mais appelle également à promouvoir le développement de leur pays d'origine.
Le Saint-Siège était représenté à ce séminaire sur les migrations par le secrétaire d'État. Dans son intervention à l'ouverture des travaux, le cardinal Pietro Parolin affirmait que la solution du problème migratoire passait par une conversion culturelle et sociale profonde. Les sociétés qui s'efforcent d'intégrer les immigrés font preuve de solidité, a-t-il estimé, en soulignant que ce défi ne pouvait être relevé uniquement par des lois et moins encore par le recours aux forces de l'ordre. Il faut que les organisations, les institutions et les nations collaborent entre elles. Dans ce domaine, l'Église fait partie des partenaires incontournables, a-t-il insisté. Au Mexique, la quasi-totalité des centres d'accueil sont gérés par des catholiques. Relevant que le christianisme a joué un rôle déterminant dans l'affirmation de la dignité et de l'égalité entre tous les êtres humains, le secrétaire d'État du Saint-Siège a rendu hommage aux pays qui ne se contentent pas de tolérer l'Église, mais qui, dans le cadre d'une saine laïcité, mettent en place des outils juridiques pour assurer sa protection et promouvoir son action sociale. En raison de l'aggravation et de l'évolution très incertaine de la situation au Proche-Orient, la Conférence des évêques de France a décidé à regret d'annuler le pèlerinage national étudiant prévu en Terre Sainte du 23 juillet au 3 août. Une décision difficile mais mûrement réfléchie. Deuxième du genre, ce pèlerinage aurait dû rassembler 2000 étudiants et 200 aumôniers accompagnés par 21 évêques. Les pèlerins et toute l'Église de France sont particulièrement en communion avec tous ceux qui, au Moyen-Orient, subissent ces durs conflits et leurs conséquences. Dans les jours qui viennent, les groupes d'étudiants qui auraient dû participer au pèlerinage se réuniront en différents lieux en France pour vivre sur place une démarche de rassemblement et un temps de prière pour la paix. Écoutez les explications de Mgr Denis Moutel, président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes au sein de la Conférence des évêques de France.
Ça a été l'objet d'une décision mûrement réfléchie sur plusieurs jours. Plusieurs éléments qui ressortent. Il y a le fait que, à l'instant où nous prenons cette décision, il y a une situation qui n'est pas stabilisée, une situation d'incertitude. Quant à ce conflit-là, hein, il y a toujours des échanges de tirs entre sur Gaza et quelques-uns venant de Gaza sur Israël. Donc le premier élément, c'est la sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, avec la cellule de crise, nous a écrit qu'il me déconseillait d'y aller. Ici au consulat français à Jérusalem également, parce que les informations sont incertaines, même si on parle de cessez-le-feu, mais on ne sait pas quand ni comment. L'autre aspect, c'est pour des jeunes qui se préparent à vivre un pèlerinage de paix, une démarche spirituelle rendue plus difficile sans doute dans ce contexte-là. Mais surtout, bien sûr, aussi l'inquiétude de certaines familles et de certains responsables de groupe, de certains évêques.
Est-ce que c'est une annulation pure et simple ou simplement un report ?
Non, on est dans le cadre d'une annulation pure et simple, parce que le report est difficilement concevable techniquement.
Vous êtes à Jérusalem aujourd'hui. Quelles sont les réactions sur place des personnes qui devaient accueillir ce pèlerinage de 2000 personnes ?
Je l'ai moi-même annoncé ce matin à l'évêque auxiliaire du patriarche latin, Mgr Fouad. Il m'a indiqué que nous n'étions pas redevables. Il a dit « je vous comprends, très bien ». Il a mentionné aussi une pression, évidemment, un contexte difficile pour tout le monde. Nous voulons, le moment venu, constituer une petite délégation qui ira remercier les communautés qui se sont préparées pour surtout continuer à marquer la solidarité de prière et de relations entre les chrétiens catholiques en France et puis les chrétiens en Terre Sainte.
Est-ce que vous savez comment ont réagi les jeunes et les aumôniers qui devaient participer à ce pèlerinage ?
Ils nous ont assuré de leur confiance et de leur solidarité dans notre décision. Ce que je sais dès maintenant, c'est que quelques groupes vont vivre, sans doute à l'occasion du week-end du 26 et 27 juillet, un événement de prière en communion avec les chrétiens de Terre Sainte, de prière pour la paix, pour tous les hommes de bonne volonté. Il y en a qui parlent de faire quelques étapes sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous voyez les choses de cet ordre-là.
Mgr Denis Moutel, interrogé par Christelle Pire. Ce mardi soir à Rome, tous les centres dirigés par la Caritas, cantines, communautés, foyers, centres d'hébergement et d'accueil, ont été invités à organiser des prières interreligieuses pour la paix en Terre Sainte, en réponse à l'appel lancé par le pape François dimanche dernier à l'Angélus. Le Saint-Père a insisté sur l'importance de la prière en cette phase délicate. Une initiative analogue a été lancée à Tel Aviv et Jérusalem, à laquelle se sont joints des juifs, des chrétiens et des musulmans du monde entier. En Irak, deux religieuses et trois orphelins enlevés le 1er juillet ont été libérés lundi dans la ville de Mossoul, tenue par des insurgés sunnites. C'est le patriarche de l'église chaldéenne en Irak, Mgr Louis Sacco, qui l'a annoncé en précisant qu'ils n'avaient pas été blessés et qu'aucune rançon n'avait été payée. Les cinq anciens otages se trouvent désormais dans la région autonome du Kurdistan irakien, qui a été en majorité épargnée par les violences affectant de nombreuses zones du pays. Mossoul a été la première ville irakienne à tomber aux mains des insurgés sunnites menés par les djihadistes de l'État islamique lors de leur offensive fulgurante il y a un mois. Parmi les chrétiens qui sont restés en Irak, beaucoup résident dans la province de Ninive, dont Mossoul est la capitale. Je vous propose d'écouter le patriarche, Mgr Louis Sacco.
J'ai une fille et un petit garçon de 3 orphelins étaient détenus dans une maison tout près de l'aéroport de Mossoul. Mais elles étaient très respectées et étaient ensemble. Ils ont passé le temps à prier pour leur libération, mais aussi pour la paix en Irak. Ils ont eu peur, c'est vrai, parce que c'était pour eux mort ou vie. La supérieure a eu beaucoup de discussions avec les djihadistes. Eux, ils ont dit au médiateur avec lequel je parlais qu'elle était très courageuse et il était fier de ces sœurs-là. Hier, dans l'après-midi, ils nous ont téléphoné que maintenant, elles sont libérées et elles sont retournées dans leur maison à Dohuk. Dohuk, c'est une ville à la frontière turque qui appartient au Kurdistan.
Donc, c'est une illustration de la vie difficile pour les chrétiens et pour les habitants de la ville de Mossoul depuis l'offensive des djihadistes.
C'est une situation très difficile et très précaire. À peu près environ 1 million de la population de Mossoul a quitté la ville. Chrétiens et musulmans, la majorité musulmane a aussi quitté la ville parce qu'ils ont eu la panique. Pour les chrétiens, il y a presque 200 personnes qui restent, mais eux aussi cherchent à quitter la ville. Ils ont fait descendre la croix de la cathédrale des Syriens orthodoxes à Mossoul. Ils ont occupé les évêchés chaldéens. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de Ils ont un plan systématique pour attaquer ou persécuter les chrétiens. Mais à vrai dire, les gens ont beaucoup peur.
Le patriarche chaldéen de Bagdad, Mgr Louis Sacco, interrogé par Antonino Gallofaro. Ces jours derniers, Mgr Sacco avait adressé une lettre aux dirigeants politiques du pays pour les avertir que l'Irak est en train de plonger dans le chaos et qu'il n'y a plus de temps à perdre, d'où l'urgence d'un accord pour sauver le pays de l'anarchie et de l'éclatement. Les chefs des églises chrétiennes d'Irak ont lancé un appel à l'Union européenne pour qu'elle aide leur pays à éviter une guerre civile qui menacerait l'avenir de l'Irak et de ses minorités très fragiles. Les chefs d'État des pays membres de l'Union européenne débattront ce mercredi de leur politique commune concernant la crise en Irak. La décision de l'Église d'Angleterre d'ordonner des femmes évêques constitue un nouvel obstacle sur le chemin de l'unité des chrétiens. C'est le constat fait par l'épiscopat catholique d'Angleterre et du Pays de Galles. Dans une note, Mgr Bernard Langlais, président de la commission épiscopale pour le dialogue et l'unité, assure toutefois que l'Église catholique ne renoncera pas pour autant au dialogue œcuménique et à sa volonté de favoriser la compréhension réciproque et la collaboration lorsque cela est possible. Xavier Sartre.
Le synode général de l'Église anglicane d'Angleterre a voté lundi en faveur de cette réforme historique qui divisait l'Église d'Angleterre depuis plusieurs décennies. Les trois collèges de délégués réunis à York ont approuvé à la majorité requise des deux tiers ce changement défendu par l'archevêque de Canterbury, chef spirituel des 80 millions d'Anglicans dans le monde. Un précédent vote en novembre 2012 avait échoué de seulement 6 voix. Des dispositions ont été prises pour apaiser les opposants à la réforme. Ainsi, les paroisses ne souhaitant pas être sous l'autorité d'une femme évêque pourront demander à être dirigées par un homme. Une clause saluée par Mgr Langlais. Même si l'heure est délicate, l'Église catholique se félicite des nombreux progrès accomplis depuis le Concile Vatican II en matière d'écuménisme et des liens d'amitié qui ont été tissés entre les deux communautés. Tout sera fait pour renforcer ces liens et pour témoigner ensemble de l'Évangile dans notre société. La réforme doit être endossée par le Parlement avant de recevoir l'assentiment de la reine Elisabeth II. Elle devra ensuite revenir devant un synode général en novembre pour être définitivement entérinée. Les premières ordinations de femmes évêques au sein de l'Église d'Angleterre devraient avoir lieu dès 2015. Les femmes représentent aujourd'hui un tiers du clergé de l'Église d'Angleterre. D'autres églises anglicanes, comme celle du Pays de Galles, des États-Unis, d'Australie, du Canada et du Swaziland, autorisent déjà l'ordination des femmes évêques.
J'ajoute que l'Église anglicane d'Australie a approuvé début juillet un amendement au secret de la confession. Les prêtres entendant en confession des crimes très graves, tels que des abus sexuels sur mineurs, ne sont plus obligés de garder le secret. Le règlement exclut du secret d'autres actes, comme les violences domestiques. Cet amendement vise à empêcher que l'Église serve de couverture pour les criminels. Du nouveau dans l'enquête sur l'assassinat des moines de Tibérine, les autorités algériennes demandent l'audition de 2 anciens membres des services secrets français. Elles veulent enquêter sur les négociations qui ont eu lieu entre ces derniers et le GIA, le groupe islamique armé qui aurait enlevé les 7 moines. Cette demande algérienne intervient quelques jours après que le juge français Marc Trévidic ait fait part de son exaspération dans les médias. Il attend toujours l'invitation officielle d'Alger pour assister à l'autopsie des têtes des moines. Selon maître Patrick Baudouin, l'avocat des familles des victimes, cette demande d'audition n'est qu'une diversion.
Il s'agit simplement de faire pièce à la procédure en cours en France et d'essayer par ce biais de l'entraver. Alors la meilleure preuve en est que le juge d'instruction français, M. Trévidic, demande depuis maintenant 2 ans et demi à pouvoir se rendre en Algérie pour que soit pratiquée une autopsie des têtes des moines. Et il n'a toujours pas obtenu le feu vert pour pouvoir effectuer ce déplacement. Donc il n'y a aucune coopération de la part des autorités algériennes au titre de l'entraide judiciaire, ce qui est une obligation pour l'Algérie. Et alors à l'inverse, les autorités algériennes, elles, demandent à la justice française d'apporter son concours pour pouvoir auditionner 2 personnes qui ont été d'ailleurs entendues par le juge d'instruction français, M. Trévidic. Donc il suffirait de communiquer d'ailleurs les procès-verbaux d'audition de M. Trévidic. Donc tout ça n'est pas sérieux, c'est encore une fois de la poudre aux yeux, c'est de la manœuvre de diversion. Et je pense qu'à la rentrée de septembre, si le juge Trévidic n'a toujours pas obtenu la possibilité d'aller en Algérie, on tirera toutes les conséquences qui sont évidemment extrêmement négatives pour l'implication des autorités algériennes. Depuis 2 ans et demi, on se moque du juge, on se moque de la justice française, on se moque des victimes, on se moque des familles des moines.
la demande d'audition de la part des autorités algériennes concerne des négociations qu'il y aurait eu entre les services français et le GIA. Est-ce que vous en savez un peu sur ces tractations?
Il y a un dossier d'instruction en cours. Il y a eu là-dessus des auditions, dont je peux dire d'ailleurs qu'elles n'ont pas apporté grand-chose pour éclairer la vérité sur l'assassinat des Mouam. La justice y est intéressée des deux côtés, d'ailleurs déjà. Ça n'a jamais débouché sur rien. Je crois que ça ne débouchera sur rien parce qu'il y a des secrets défense qui sont opposés des deux côtés. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on avancera. Les autorités algériennes le savent parfaitement bien. Et la recherche de la vérité, elle passe par certaines investigations élémentaires telles que l'autopsie.
Maître Patrick Baudouin, interrogé par Christelle Pire. Les évêques catholiques latins d'Ukraine ont exprimé leur profonde tristesse et leur inquiétude à la suite des affrontements qui ont fait des morts dans l'est du pays. Dans un message, les 6 évêques présentent leurs condoléances aux proches des victimes et s'inclinent devant ceux qui ont donné leur vie pour défendre leur patrie. Ils invitent à prier la Vierge Marie de faire cesser les hostilités en Ukraine. Pour mieux appréhender cette période de mutation sans précédent touchant tous les domaines de notre vie, la famille franciscaine se mobilise. Elle a organisé sa première université d'été à Brive-la-Gaillarde, dans le sud-ouest de la France. Un premier rendez-vous avec pour thème « La crise, les crises, un nouveau monde en train de naître ». Pierre Giorgini est le président recteur de l'Université catholique de Lille. Il a ouvert l'université d'été en insistant sur un point. Nous ne sommes pas en crise, mais dans un monde en changement. Je vous propose de l'écouter.
Aujourd'hui, il y a, on va dire, deux tendances qui se développent dans le monde. Une tendance d'opposition radicale aux technosciences, considérant qu'elles sont porteuses de mainmise de grandes multinationales à l'échelle mondiale, et donc porteurs d'exclusion, de pauvreté, etc. Et puis un autre courant, plutôt aujourd'hui nord-américain, qui se prend à rêver d'un paradis sur Terre grâce à l'émergence d'une surhumanité, d'une cyberhumanité qui viendrait dépasser l'homme par la technologie pour, au fond, nous faire aller vers un monde où la pauvreté aurait disparu, etc. Mon propos, c'est de renvoyer dos à dos ces deux visions et de voir comment on peut, nous, chrétiens, creuser ce que j'appelle un tiers chemin, c'est-à-dire un chemin qui porte un regard juste suffisamment bon sur la technoscience et qui voit si nous pouvons trouver là les ressources de créer un chemin humaniste et durable.
Et justement, comment voyez-vous le rôle de l'Église dans cette période de mutation?
Nous, chrétiens, et l'Église catholique a des choses à dire. Et au lieu d'avancer parfois un peu à reculons, un peu comme des suiveurs venant critiquer, venant parfois d'ailleurs utiliser ces technosciences, je pense que nous devons au contraire être parmi ceux qui inventent pour être au fond une église à la fois fondée dans sa tradition, qui est organisée autour de cet événement unique qui est la mort et la résurrection du Christ et l'évangile, mais aussi de rendre cet évangile contemporain et de poser les bonnes questions tout en construisant cette humanité.
Est-ce qu'on peut quand même être optimiste pour la suite ?
Je me pose souvent des questions. D'ailleurs, quand on me pose la question de l'optimisme, moi je renvoie plutôt à l'espérance, mais ces universités ont vraiment été utiles parce qu'on s'est aperçu qu'il existe des millions de micro-initiatives, d'alternatives, de nouvelles formes d'économie solidaire, d'économie collaborative. Il y a un héros d'histoire d'enfant qui nous a été rappelé par Anne-Sophie Novel, qui travaille beaucoup sur l'économie collaborative, qui est le pilotin, un petit poisson qui décide que les bancs de poissons peuvent se configurer en gros poissons pour faire peur aux autres gros poissons. Eh bien, je crois qu'on était tous des pilotins. Voilà, on a pris conscience qu'on était tous des petits poissons, mais qu'au fond, on était en train de construire quelque chose qui pouvait être intéressant.
Vous êtes donc le président recteur de l'Université catholique de Lille. Comment préparez-vous les étudiants à cette transition fulgurante ?
De tenter d'être une université contemporaine. Nous n'avons pas beaucoup ou pas assez d'argent pour le faire, mais nous prenons des risques pour investir fortement dans ces nouvelles formes d'innovation. Thérèse Lebrun, qui m'a précédé, avec d'autres, a déjà avancé sur ce terrain en accompagnant la construction d'une ville expérimentale basée sur la mixité, basée sur la prise en compte de la dépendance, de la souffrance sociale, en créant peut-être un des premiers modèles d'éco-quartier, de quartier ouvert à la différence, à l'intégration, à la solidarité. On a monté des laboratoires de pédagogie expérimentale pour justement ne pas être des followers, des suiveurs, mais être force de proposition. Donc on investit dans la pédagogie numérique.
Pierre Giorgini, président recteur de l'Université catholique de Lille, interrogé par Audrey Radondi. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.